C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Alexandre Pfister, connu pour ses jeux experts, est de retour avec Claude Edge, un jeu localisé par Matago qui nous emmène dans un monde post-apocalyptique où il ne reste plus grand-chose, hein, tout est brûlé. La végétation a du mal à pousser, hein, l'eau manque. Pour vous déplacer à travers ce paysage, bah, vous utilisez des dirigeables avec un but précis, combattre la milice Claude qui dirige un peu ce monde perdu maintenant. Et vous devrez aussi collecter des ressources dans des villes qui aujourd'hui sont cachées par les nuages. Alors on pourra découvrir ce qui se cache derrière quand on arrivera à s'y poser. Claude Edge est un jeu de gestion de ressources, de deck building et de développement. Claude Edge peut être joué soit comme une campagne à travers plusieurs chapitres ou comme des scénarios uniques, pratiques quand vous jouez avec des personnes différentes. Mais au moins, eh bien, il y a les deux et ça c'est plutôt cool. En plus, bah, il n'y a aucune destruction du matériel. Au début du jeu, on vous demandera d'ailleurs de mettre certains composants de la campagne que vous devrez débloquer dans un sac en plastique car au fur et à mesure de votre avancée, vous ajouterez de nouvelles tuiles ou de nouvelles cartes. Alors au niveau matériel, chacun a un plateau personnel, modulable, représentant son aéronef, que l'on pourra améliorer en rajoutant des hélices, des armes pour combattre et des capacités pour planter plus de végétation. Il y a un plateau de score, le plateau principal qui est tout en longueur, hein, c'est là où votre dirigeable se déplace avec les villes cachées dans les nuages. C'est vraiment d'ailleurs au chapitre 3 que tout commence, hein, les deux premiers étant plutôt, on va dire, de l'initiation, mais c'est super pratique de découvrir les mécanismes du jeu. Alors voyons comment ça se passe. Le jeu se déroule en 9 tours. Il y a plusieurs phases dans le jeu, certaines se jouent simultanément, du coup bah, il n'y a pas de temps mort. La première phase vous permet de vérifier la progression du jeu et de voir si vous activez l'action livre, qui est différente à chaque fois en fonction de la progression de la campagne ou du scénario joué. C'est lors de cette phase que l'on va modifier le plateau de jeu, ajouter des tuiles, faire des choix entre différentes actions. Vient la phase de revenu, vous pouvez décider de choisir de payer de l'énergie pour gagner de l'eau en fonction de votre emplacement sur le plateau de production. Alors il y a deux ressources importantes dans le jeu, faut le savoir, c'est l'eau et l'énergie, car pour produire de l'eau qui est indispensable, il faut de l'énergie. Tout est indiqué sur ce plateau, vous pouvez aussi gagner des points de victoire. Puis chaque joueur piochera deux cartes de son deck de navigation. Alors ces decks sont identiques au début, les cartes ont des valeurs de 0 à 3, mais vont évoluer par la suite. Elles vont vous permettre de faire avancer et modifier votre aéronef pour vous battre contre la milice Claude et récolter des ressources, des cartes projet. Alors parmi ces deux cartes, il y a la carte la plus basse qui vous permet de gagner de l'énergie ou des cartes projet, et la suivante donne la valeur de déplacement de notre second aéronef. Donc si je tire un 2, eh bien je peux me déplacer de 2 cases, vous pouvez même aller plus loin aussi en fonction des modifications de votre aéronef ou des cartes récupérées. Mais vous devez toujours vous arrêter sur une zone nuageuse, là où la ville est cachée à chaque fin de tour. Alors vous verrez aussi que la construction de dettes se retrouve également dans le combat, la deuxième phase. Lorsque vous atteignez une zone où la milice Claude est au pouvoir, eh bien vous disposez d'une certaine valeur de force pour gagner des bonus pour cette zone. Alors pour gagner, soit vous avez des points de combat sur votre vaisseau ou vos cartes, soit on peut aussi en dépenser de l'énergie pour piocher une carte qui augmente notre valeur de combat. Vous pouvez aussi piocher des cartes comme bon vous semble, tant que vous avez de l'énergie. Et aussi d'ailleurs, abandonner le combat. Il y a toujours des options, on n'est jamais bloqué. Si vous perdez, eh bien vous aurez dépensé de l'énergie pour rien, mais en cas de victoire, eh bien vous récupérez des ressources. Alors la première carte que vous piochez coûte une énergie et chaque carte suivante coûte 2 énergies. Encore une fois, c'est à vous de décider si vous voulez dépenser votre énergie pour éventuellement gagner la bataille et gagner les récompenses. Une fois tout cela est terminé, eh bien vous déposez l'un de vos cubes de progression sur la colonie indiquant que vous avez visité les lieux. Ces petits cubes indiquent le nombre de tours. La dernière phase, vous allez envoyer votre drone. Vous allez soit pouvoir développer votre aéronef, soit visiter la ville, soit construire ou planter de la végétation. Alors si je décide de construire dans mon aéronef, eh bien j'ai le droit de faire 2 actions en tant que premier joueur. Les autres joueurs pourront eux construire une seule fois. Pour ce faire, faut payer en métaux selon l'amélioration que vous souhaitez faire. Vous pouvez aussi à la place construire l'une de vos cartes projet. Là il faudra avoir l'eau nécessaire et défausser une carte. On peut également planter l'une de nos tuiles végétation autour de son aéronef et récupérer les points de victoire. Certaines tuiles que vous plantez vous donnent des bonus. Les autres joueurs ne pourront pas planter mais auront une action de construction, voire s'ils préfèrent récupérer une ressource ou une carte. Rien ne vous oblige d'ailleurs à construire, surtout si vous n'avez pas les ressources nécessaires. Enfin, eh bien, on va pouvoir aller explorer la ville. Pour le moment, vous ne la voyez pas, bien parce qu'elle se trouve dans les nuages. Et c'est l'innovation du jeu, car on met des cartes dans une pochette transparente recouverte d'un dessin de nuages et qui donc masque la carte. On sait juste que l'on va retrouver de l'eau, du métal, de l'énergie ou des cartes. La première représentée donnera 3 ressources, la deuxième 2, la troisième et quatrième seulement 1. À vous d'imaginer en fonction des dessins autour ce qui pourrait bien se cacher sous les nuages, hein, c'est peut-être des panneaux solaires. Dans ce cas, ça pourrait donner beaucoup d'énergie. Alors le premier joueur se place sur la ressource qu'il souhaite obtenir en espérant faire le bon choix. Les joueurs suivants en choisiront une autre et ainsi de suite. Puis on révèle la carte et on voit ce que chacun récupère. Le premier joueur, celui qui a choisi l'action, va en plus récupérer la carte qu'il mettra dans sa défausse pour effectuer ses actions de déplacement ou de combat. L'idée des cartes nuages est vraiment sympa hein, parce que chacun n'imaginera pas la même chose. Ensuite, un nouveau tour commence. Plus on va avancer sur le plateau et plus on récupère de ressources ou des points de victoire plus importants. Alors, il y a vraiment plein de choses à découvrir hein, dans Cloud Edge. C'est difficile de parler de tout. Je vous invite vraiment à faire la campagne pour la rejouabilité. 7 chapitres hein, qui vous emmènent dans un univers post-apocalyptique et qui ajoutent des nouvelles tuiles. L'idée hein, d'améliorer votre aéronef pour le rendre plus efficace au combat ou aller plus loin ou même planter encore plus de végétation, c'est vraiment sympa à jouer. En plus, ça colle parfaitement au thème. Le fait que la majeure partie du jeu est simultanée bien fait que les tours sont rapides. Un jeu pour initier en mode scénario, mais qui devient expert pendant la campagne. Mais c'est quand même accessible hein, par rapport au jeu d'Alexandre Pfister, qui sont beaucoup, beaucoup plus experts que celui-là. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Vianney de Terre de Jeux à Rennes pour Rétro Ludique. Pour la musique, c'est Kiké ça. Avec Tout ira bien en duo avec Soprano, 9h38, bon réveil.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Bien sûr que tout ira bien puisqu'on retrouve Vianney de Terre de Jeux à Rennes. Salut Vianney. T'as vu la transition quand même?
Hey, c'est un métier. Hein? Salut Mathieu, salut à toutes et tous.
Alors c'est Rétro Ludique le jeudi. Et Vianney, aujourd'hui tu vas nous parler de Spy Club.
Ouais, on va parler d'un jeu qui s'appelle Spy Club, qui a été commis par deux personnes, Randy Hoyt et Jason D. Kingsley, des auteurs qu'on connaissait pas trop, parce qu'ils ont pas fait d'autres jeux qui sont sortis en France, à ma connaissance.
D'accord.
Spy Club, c'est un jeu un peu particulier, donc on va en parler en plusieurs temps, parce qu'il a plusieurs originalités. L'idée en fait de Spy Club, déjà, faut le savoir, c'est un jeu coopératif. On joue tous ensemble contre le jeu, et on est sur un niveau de jeu équivalent au Cador du genre, qui est pandémique. Donc on est sur un jeu qui est un petit peu complexe, avec quelques règles, qui va demander de la réflexion stratégique, mais qui est quand même accessible à une bonne majorité de personnes. Dans Spy Club, on peut jouer à 2, 3, 4 joueurs, peu importe. Et en gros, Spy Club, c'est un peu particulier. Ça nous vend une thématique qui est celle de l'enquête d'un petit club de gamins qui font des petites enquêtes sur ce qui se passe de délits dans leur quartier. Genre, qui c'est qui a volé la baguette chez le boulanger, il y a eu une disparition de chien dans le quartier nord, etc. On est vraiment dans l'esprit, pour moi, du club des 5 et de ce genre de petites histoires. Donc ça, c'est pour le côté thématique. Le problème qui n'en est pas un, c'est que le jeu est pas vraiment en adéquation avec ce thème-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un jeu, finalement, qui est assez abstrait, assez stratégique et casse-tête, où en fait, on va nous demander de résoudre un casse-tête en posant des cartes au centre de la table dans un ordre bien précis, une séquence bien précise, par le biais d'actions qui sont restreintes. On n'a qu'un certain nombre d'actions par tour. On peut pas faire tout ce qu'on voudrait avec ces fameuses cartes qu'on voudrait mettre dans un ordre, mais en fait ça coince parce que là pour l'instant faudrait que je joue celle-ci, donc faut que je dépense une action pour la changer de place avant de pouvoir la jouer, faire un échange avec mon partenaire, etc. On est vraiment dans le plus pur mode à la pandémie d'un jeu de stratégie. On va devoir se concerter pour élaborer des coups qui vont s'enchaîner et avoir une vision en fait de si je fais ça maintenant, qu'est-ce que je vais faire après? Je veux arriver à un but, mais il va falloir que je mette en place un certain nombre d'actions pour y arriver. Mais, donc c'est vraiment une.
Ouais, bien, je connais pas le jeu, mais c'est un jeu d'enquête du coup par rapport à.
Eh ben voilà, donc du coup j'en viens à ça. En fait, la mécanique fait que tu ne rentres pas du tout dans la thématique du jeu et de l'enquête.
D'accord.
Mais pourtant, ce qu'on te raconte, c'est que tu fais des petites enquêtes. Donc tu vas devoir chercher en fait quel est le mobile du délinquant ou du criminel, quel est le crime en question, quel est le lieu, etc. Ça, c'est ce que tu cherches. Et donc, tu vas essayer de faire des séquences de cartes en disant, bah tiens, j'ai 5 cartes de crime, ça y est, le crime, on sait que c'est ça. Donc,
d'accord.
La thématique, elle est présente, mais vraiment sur un fond qui est assez étonnant. Donc ça, c'est pour la première partie dont je voulais parler, qui est un jeu relativement en fait classique, qui, je trouve, ne se décroche pas vraiment de ce qui peut se faire en coopératif. Il est très bien foutu, ça marche, et c'est
la couve est très enfant, hein.
Ouais, alors qu'en fait, le jeu l'est pas vraiment. On n'est pas sur un jeu enfant. Nous, on y a joué avec mon ami, et en général, on aime bien les jeux un peu plus costauds, et ça nous a beaucoup plu. la vraie originalité du jeu, et pourquoi je vais en parler 2 ans après, c'est parce que Spy Club proposait un mode un peu dit campagne.
D'accord.
Et en fait, l'idée, c'est que à la fin d'une partie de Spy Club, tu vas arriver avec ce que je disais, avoir trouvé quel est le mobile, qui est le suspect, quel est l'indice qu'il a laissé, etc. Les 5 critères nécessaires pour arriver à la fin d'une partie.
Mm-hmm.
Et grâce à ça, tu vas enchaîner une seconde partie qui n'aura pas les mêmes règles, pas le même setup que la partie précédente.
D'accord.
En fonction du résultat de ta partie, la partie d'après n'est pas la même. Donc ça, c'est un système qui a été inventé pour la première fois par Friedman Friseux avec Fabulosa Fructus. Un système en fait qui fait que à la fin de chaque partie, on prend comme une photographie de la partie qu'on vient de faire et du résultat, et ce résultat impliquera une seconde partie différente. Et ça fait que le jeu a énormément de scénarios différents. Il y en a, si ma mémoire est bonne, je dirais au moins une 50aine
okay.
de choses qui vont faire qu'il y a des petites choses qui changent à chaque fois et qui, pour le coup, sont très thématiques. C'est-à-dire vont vraiment nous permettre, justement, au fil des parties, de comprendre qu'on n'est pas juste en train de résoudre un casse-tête, mais bien d'être dans une ville où il se passe des choses. Par exemple, nous, on a fait un scénario où, en fait, il y avait un plan de la ville, ce que tu n'as pas normalement du tout. C'est
d'accord.
rajouté par le scénario. Dans ce plan, on avait comme une fanfare qui se baladait dans la ville et il fallait qu'on suive la fanfare en plus de faire ce qu'on nous demande d'habitude.
D'accord. Donc, ah oui, il y a des choses qui se rajoutent à chaque fois.
Exactement. Un peu comme dans les fameux jeux dits Legacy qui se dédient plutôt à des publics de gens très confirmé en termes de niveau de jeu. Là, on était sur un jeu assez accessible et avec vraiment des évolutions de partie à chaque fois, assez tranchées. J'y croyais pas du tout au moment d'y jouer. J'avais été très refroidi par la présentation parce que justement, l'adéquation thème-mécanique me semblait rédhibitoire. J'avais l'impression qu'on allait faire un casse-tête de mathématiques boulier comptable alors qu'on nous vendait un thème d'enquête qui, pour moi, était pas compatible. Et en fait, effectivement, c'est pas un jeu d'enquête. Faut pas y jouer pour un jeu d'enquête. Mais par contre, ce système de campagne fait que t'as un jeu coopératif qui est extrêmement rejouable, qui te donne une sensation de jamais être le même à chaque fois, et qui au final super immersif. On en a fait beaucoup, nous, on a vraiment beaucoup aimé, on en a enchaîné les parties, et c'est un jeu qui, je trouve, se différencie du coup, grâce à ce mode campagne, vraiment de presque toute la production ludique de jeux coopératifs, parce que finalement, les jeux en campagne accessibles, il y en a très très peu.
Ouais.
C'est une des raisons pour lesquelles, justement, j'aime beaucoup le projet,
mais on
en a parlé plusieurs fois, mais ça fait partie de ces modes de jeu qui souvent sont réservés un peu aux joueurs confirmés, et je trouve ça chouette de l'étendre à des gens qui sont pas forcément l'habitude, parce que c'est une sensation de jeu qui est très grisante, en fait, de savoir qu'on va continuer, que ça s'arrête pas, le côté série, quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très très intéressant. Et la petite histoire, parce que c'était aussi le but de faire rétro-ludique à la base, c'est que Spy Club, aujourd'hui, il est malheureusement plus édité. Renegade Game le fait plus. 2 ans après, c'est arrêté. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et qu'il voit à nouveau le jour, mais le jeu n'a pas eu le succès escompté.
Oui, c'est ce que j'allais dire, justement, ouais.
Ouais, et je pense, très honnêtement, que c'est exclusivement dû au fait que la couverture qui vend un thème de jeu d'enquête, Club des 5, qui n'est pas du tout raccord avec la mécanique, en fait, a fait que les gens ne savaient pas sur quel pied danser et finalement partaient sur autre chose. Et c'est vraiment intéressant de voir l'histoire de ce jeu-là, je trouve, parce qu'il avait, pour moi, intrinsèquement, dans sa boîte, un jeu qui pouvait faire un carton et un tabac, parce que mécaniquement, c'est vraiment brillant. Mais la manière dont il a été édité, le choix éditorial de lui amener ce thème-là et de mettre ça en avant comme étant un jeu d'enquête, un jeu où on va avoir vivre une aventure, alors que c'est pas le cas, a fait que le jeu a finalement raté complètement son public. C'est les petites histoires intéressantes de rétro-ludique, mais je trouvais ça intéressant de reparler de ce jeu qui, pour moi, fait vraiment partie des jeux très marquants d'il y a 2 ans. Ça m'avait fait une vraie bouffée d'air frais quand j'y avais joué, j'avais trouvé ça vraiment grandiose.
En tant que vendeur, toi, tu en avais vendu beaucoup de Spy Club, du coup ?
On en avait vendu quelques-uns, parce que justement, ce qui est compliqué, c'est que tant que t'as pas fait une campagne entière, je pense, c'est très dur de savoir vraiment qu'est-ce que le jeu il a dans le ventre. Donc déjà, ça demande de pratiquer une campagne, si ma mémoire bonne, c'est 5 parties. Donc ça demande de pratiquer le jeu de manière assez intense, quoi. Moi, en tant que ludicaire, j'ai pas souvent l'occasion, malheureusement, de faire 5 parties d'un jeu.
Ouais.
J'en fais 1, 2, éventuellement 3, mais quand je passe les 3 parties, c'est que le jeu me plaît beaucoup et
ouais.
que là, ça devient vraiment un plaisir d'y jouer en dehors du travail. Et donc voilà, du coup, c'est compliqué pour, je pense, beaucoup de gens d'être formé correctement sur ce genre de produit. Et du coup, on en avait passé pas mal parce que justement, on prévenait les gens. Attention, le thème, c'est pas ce que devant la boîte,
ouais.
t'es sur un gros casse-tête, etc. Et il y a des gens qui s'intéressent. Moi, le premier, en fait, si on m'avait dit ça direct, j'aurais dit ah, ok, pourquoi pas, ça me tente. Mais il faut être prévenu que le thème est pas en adéquation, quoi.
Est-ce que, on risque d'avoir la même chose avec le projet ?
Non, je crois pas.
Non.
Tu l'as fait, toi ?
Ouais, ouais.
Moi, je crois pas. Pour moi, le projet, la seule déception qu'il peut donner, pour toutes les œuvres culturelles, c'est quand tu as de trop hautes attentes par rapport à quelque chose,
ouais,
et que tu joues et que finalement, le jeu n'est que ce qu'il est. Ça, moi, je me rappellerai toute ma vie du moment où Time Stories de Manuel Rozoy est sorti. Il y avait beaucoup de gens qui s'offusquaient de ce jeu-là en disant « Ah non, non, c'est pas bien, c'est pas bien », parce qu'ils voulaient que Time Stories soit un jeu où on manipule le temps et où on voyage dans le temps, ce que n'est pas Time Stories. Donc, c'était pas une histoire de qualité de jeu, c'était une histoire d'attente.
Ouais.
Et en fait, pour moi, le projet, les seules personnes que j'ai vues déçues, soit des gens qui attendaient un jeu très complexe pour joueurs.
Oui, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de... Et je le dis dans ma chronique, je dis que c'est pas un jeu expert. Hein. C'est un jeu
pas
familial, quoi.
Pour moi, c'est le même niveau que Spy Club. Le jeu dont je viens de parler, le projet, on est vraiment sur le même niveau de jeu. C'est pas beaucoup plus compliqué. Voire même le projet est peut-être un peu plus accessible parce que je sais pas, les règles sont probablement mieux expliquées. Et après, la deuxième raison qui peut faire qu'on peut être déçu par le projet, c'est que le projet vend sur son thème un thème de mise en abîme, un peu à la Jumanji. C'est-à-dire,
ouais,
le thème, c'est que Vianney, je joue à un jeu de société dans lequel j'incarne un personnage qui joue à un jeu de société.
Ouais.
Donc il y a un côté très... Enfin, moi, c'est le genre de thème où j'ai fait « Oh, excellent !» Ça permet de faire beaucoup de choses. J'attends beaucoup de choses quand je regarde un film ou que je lis un livre avec ce genre de thématique, parce que je pense que les auteurs peuvent beaucoup s'amuser avec ce genre de thème. Et je pense que si on en attend trop par rapport à ce thème-là, avec le projet, on risque d'être déçu, parce que le jeu est pas là-dessus, en fait.
Ouais.
Il y a très peu de choses qui jouent sur ce thème-là. Et les deux types de gens que j'ai vu déçus pour le projet, c'était deux types de gens qui étaient soit attirés par le côté complexité, soit justement attirés par le côté mise en abîme de jeu. Et ça, oui, bah, tu peux être déçu, parce que dedans, c'est pas ça.
C'est pas ça, effectivement, mais c'est un très très bon jeu, le projet.
Ah, moi j'ai trouvé ça, bah après voilà, là on parle de Spy Club, mais le projet, moi j'ai trouvé ça absolument grandiose. Pour le coup, on a enchaîné la campagne qui fait 13 parties en moins de 24 heures. Enfin, c'est vraiment, pour moi ça a été ultra grisant de jouer à ce jeu, quoi. C'est tout ce que je voulais sans savoir que je le voulais. C'est vraiment super bien, quoi. 45 minutes de partie, enfin, le projet c'est grandiose, tout ça.
Bah, merci beaucoup, Vianney, pour avoir parlé de Spy Club, un jeu que je ne connaissais pas et que certains doivent pas connaître non plus, puisque il a
malheureusement, je pense pas qu'il y a beaucoup de boîtes en français qui ont circulé et qui circulent encore, malheureusement, peut-être en occasion. Encore faut-il le trouver, parce que je pense que par contre, les gens qui ont pu avoir la chance de l'acheter, qui ont joué, risquent d'apprécier, parce qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de ce jeu-là qui est très intéressant. Donc je suis pas sûr qu'il soit facile à trouver d'occasion.
Ouais. Eh ben merci beaucoup, Vianney. On se retrouve pas la semaine prochaine parce que je ne suis pas là, pas la semaine suivante parce que tu n'es pas là. Et donc, on se retrouve dans 3 semaines.
Eh ouais, dans 3 semaines.
Salut, Vianney.
Salut à toutes et tous.